Et on commence ce journal avec le dernier rapport du WWF. Le gaspillage alimentaire est beaucoup plus grave que nous le pensions.
Et ce rapport s'intitule « L'Europe dévore la planète » et il tire la sonnette d'alarme sur un phénomène massif qui a été un peu ignoré. Face à des grandes questions de gaspillage, qui concernent essentiellement la consommation des ménages ou le secteur de la distribution, les auteurs attirent notre attention sur les pertes alimentaires au stade agricole. Dans les champs, dans les parcelles, dans les fermes, partout où la nourriture est produite. Ils ont compilé un grand nombre d'études scientifiques et des rapports techniques qui leur permettent de revoir le chiffre global connu sur le gaspillage alimentaire au niveau mondial. Nous pensions que 30% de la production alimentaire passait à la poubelle. Selon ce rapport, 40% des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. Barbara Redlingshofer est ingénieure d'études à l'INRAE. Selon elle, il est urgent de réformer nos systèmes alimentaires.
On a besoin de faire attention à ce secteur-là qui était un petit peu mis de côté ces dernières années. Et c'est vrai que les Nations Unies qui ont fixé les objectifs de développement durable en 2015 avaient bien porté un objectif chiffré sur la partie gaspillage au stade de la distribution et de la consommation, alors que sur les stades avant la distribution, donc la transformation dans les industries et aussi l'agriculture, il n'y avait pas d'objectif chiffré. Et vraiment la phase au champ même, cette partie-là a même été exclue des objectifs de réduction. Et ceci parce que à ce stade-là, c'est vraiment d'une part difficile à mesurer, difficile à compiler les données. Aujourd'hui, on commence à mesurer les pertes et gaspillages au moment où on récolte les plantes qui fournissent nos denrées alimentaires. Les causes sont vraiment multiples parce que effectivement, entre les fruits et légumes, les céréales, la viande, les produits laitiers, les sources de pertes sont vraiment très différentes et ça veut dire aussi que les solutions sont différentes. En gros, il y a des variables qui viennent de la météo, des facteurs plus environnementaux, on pourrait dire. Après, dans le secteur des fruits et légumes, c'est un peu différent. Alors, on a les cahiers des charges qui sont exigeantes pour mettre sur le marché des fruits et des légumes qui correspondent à des qualités qui sont bien définies. Un phénomène qu'on rencontre peu ailleurs, c'est que parfois les récoltes ne sont pas récoltées. Ça veut dire un agriculteur, il doit parfois faire le choix de laisser au champ parce qu'il ne pourrait pas avoir un prix rémunérateur. Et ça, ça contribue aux pertes et gaspillages dans ce secteur-là. Ce type de rapport est vraiment utile parce qu'il nous permet, nous, chercheurs, d'avoir des éléments concrets pour dire, ben là, il faut y aller. Mais encore une fois, la complexité de la thématique, du fait que entre pays du Nord, pays du Sud, les problématiques sont pas forcément les mêmes. En fonction des catégories de produits et des types d'acteurs qui sont en jeu, on a besoin de solutions adaptées. Ça demande vraiment une feuille de route qui doit être ambitieuse et bien dotée pour les chercheurs.
Voilà, si vous voulez retrouver ce rapport dans son intégralité, nous en postons le lien, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, lien à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Angleterre s'apprête à légiférer pour accélérer le développement de produits génétiquement modifiés.
Et suite au Brexit, le Royaume-Uni s'est émancipé de la législation européenne protectrice sur les OGM. Un projet de loi sur la technologie génétique est présenté aujourd'hui au Parlement anglais. Si la loi est votée, l'Angleterre pourra dorénavant développer, cultiver et commercialiser des cultures génétiquement modifiées. Pour le moment, cela ne concerne que les plantes, pas encore le bétail. Et l'argument est celui d'accroître la sécurité alimentaire du pays, avec l'idée de rendre les productions plus résilientes face au changement climatique, plus résistantes face aux ravageurs en évitant les pesticides et pour augmenter les rendements.
Selon une étude parue dans la revue Nature Chemical Biology, les coraux fabriquent un composé anticancéreux.
Une équipe américaine a découvert qu'une espèce de corail au large de la Floride produit, pour se protéger des prédateurs, de l'héloterobine, un composé actif contre les cellules cancéreuses qui inhibent leur croissance. Les chercheurs ont ensuite séquencé le génome de ces coraux pour identifier les gènes impliqués dans la fabrication de ce composé. Ils ont ensuite modifié génétiquement des bactéries pour synthétiser de l'héloterobine. Ils ont pu reproduire les premières étapes de cette fabrication. Les auteurs espèrent aller au bout de cette synthétisation pour pouvoir développer des médicaments à usage clinique.
Et enfin, selon une étude parue dans la revue Microbiology Spectrum, des bactéries se sont adaptées pour survivre dans du venin.
Et cette découverte vient bouleverser un dogme. Le venin n'est ni stérile ni antimicrobien. On savait pourtant que 75% des victimes de morsures de serpents développent par la suite des infections. une équipe internationale a analysé le microbiome de venin de 5 espèces de serpents, dont le cobra cracheur à cou noir, et de 2 espèces d'araignées, dont la mygale ornementale indienne. Ils ont découvert la présence d'une bactérie, Enterococcus fecalis. Après avoir séquencé son ADN, les chercheurs ont découvert qu'elle avait muté 2 fois au cours de son évolution pour s'adapter à cet environnement extrême.